Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bienvenue sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour réagir à l'actualité et pour mieux la comprendre en compagnie de Julie et de vos appels au standard. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy. Le standard, c'est le 3921.
Et vous pouvez nous dire, si vous êtes habitant des banlieues, ce que vous ressentez après l'échange lundi soir entre Emmanuel Macron et 300 élus de banlieue en région parisienne. Ces banlieues qui reviennent dans le débat et dans le grand débat. Un président qui promet un plan pour les petites associations, des mesures aussi anti-ghetto. Quel est le quotidien, en l'occurrence, des habitants et des élus de ces quartiers délaissés pour certains, en difficulté pour d'autres? Pourquoi ces propositions alors que le président a étouffé le plan Borloo sur les banlieues? On vous donne la parole. Des maires viennent témoigner ainsi que des représentants d'associations. Et puis à 10h, c'est un médecin, grand aventurier, amoureux des pôles que nous recevons ce matin. Jean-Louis Etienne vient nous raconter l'Arctique et l'Antarctique, deux univers qu'il a tant sillonné. Lui qui prépare une nouvelle mission à bord de Polarpod pour explorer les profondeurs de l'océan austral. Vous pourrez là encore échanger avec lui sur le sens de ses expéditions. Voici le sommaire qui nous réunit sur Europe 1 jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec le tour de France d'Emmanuel Macron à la rencontre des élus pour présenter les thématiques du grand débat, ce qui nous permet de remettre à la une les banlieues. Bonjour Catherine Arenoux.
Bonjour.
Vous êtes maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, vice-présidente de l'association Ville et Banlieue. Vous étiez au milieu de ces 300 élus lundi soir et donc face à Emmanuel Macron. Que retenez-vous de ces échanges, de ces 6 heures passées ensemble?
6 heures. C'est une prouesse, on est bien d'accord. Vous savez que nous avions une grande histoire, pas seulement Ville et Banlieue, mais les associations, les élus des territoires de banlieue. Nous avions une grande histoire avec Emmanuel Macron qui avait commencé en juillet 2017, puis en octobre 2017. Donc c'est vrai que nous étions...
Avec l'appel de Grigny, avec
une mission qu'il avait confiée à Jean-Louis Borloo et qu'il nous avait confiée. Mm-hmm. Quand je dis nous, c'était les membres de Ville et Banlieue, beaucoup d'élus, des territoires, puis beaucoup d'associatifs et beaucoup d'habitants.
Ça partait bien cette histoire.
Ça partait mal, c'était bien reparti. Puisqu'il nous avait confié, il nous avait donné une lettre de mission et nous, pendant 6 mois environ, nous avons travaillé avec ces ministères sur des propositions. Parce que l'idée, ça n'était pas d'être de nouveau dans une espèce de plainte non comprise et sur laquelle on n'avançait pas. L'idée, c'était de lui dire, dans ces territoires, il y a des solutions, des micro-solutions qui peuvent devenir des solutions plus pérennes. Et puis, c'est ça qu'on veut vous proposer. Et nous en avons profité, nous, pour faire ce qu'on a appelé le Tour de France des territoires gagnants. C'est-à-dire qu'on a été dans des grandes villes où il y avait des territoires en politique de la ville. Et pendant une journée, on a rencontré les membres des associations et les membres des conseils citoyens et des habitants pour qu'ils nous déclinent toutes les bonnes idées qui étaient dans les territoires et qui trouvaient des solutions.
Oui.
Et on a engrangé, on a fait un espèce de cahier, pas de doléances, mais un cahier de propositions. Les propositions avaient toutes les mêmes objectifs, c'était plus d'éducation, plus d'emploi, mieux sur le logement, mieux sur l'aménagement du territoire, mais elles avaient des particularités de territoire, ce qui était assez normal. Et puis, parallèlement, il y a eu le plan Borloo, puisque en fait les deux y contribuaient, et ce plan Borloo était remis au président de la République, et le président de la République avait répondu le 22 mai.
Et là, personne n'avait compris.
Oui.
La douche froide, parce que vous aviez le sentiment d'avoir fait une bonne exploration de cette France déchirée dans ces territoires, et vous n'avez pas eu le sentiment d'être entendu, pire, le sentiment pour certains d'être humilié, comme si on vous avait donné un os à ronger pendant 8 mois. C'est un peu ça, Catherine?
Oui, on a été très surpris, parce que vous savez, l'espoir naît très vite quand on se met au travail, quand on rencontre des gens passionnés. L'espoir naît vite et en plus, on avait le sentiment tous de l'avoir fait assez honnêtement, sachant que sur ce plan qui s'appelait plan de réconciliation nationale, donc c'était quand même, le titre voulait dire beaucoup de choses, sur ce plan, ça n'était pas, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron l'autre soir, ça n'était pas la loi du tout ou rien. C'était énormément de propositions dont beaucoup pouvaient être reprises, mais reprises sous la forme d'un plan.
Notamment sur
les associations, qui étaient une partie très importante.
On va y revenir parce qu'il a pu faire sur un certain nombre de choses son mea culpa Emmanuel Macron, mais on verra si l'avancée se dessine. Philippe Rio va être avec nous dans un instant, maire de Grigny, justement, dans l'Essonne. Et Jérôme Sainte-Marie étudie notamment les mouvements sociaux. Vous êtes politologue, Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Président de l'Institut de Conseil et d'Études PollingVox. C'est vrai que dans les banlieues, on était un peu les oubliés de ces 12 semaines de mobilisation. Je pense évidemment aux gilets gilets jaunes. Et puis là, tout d'un coup, on a le sentiment qu'Emmanuel Macron se dit attention, quand on parle de France divisée, déchirée, il ne faut pas oublier ces banlieues.
Ça vient oui, effectivement. Peut-être un peu tard. C'est-à-dire qu'on a eu un grand retour avec le phénomène dit des gilets jaunes. On a eu le grand retour de ce qu'on appelle la France périphérique. Mmh. C'est-à-dire qu'on est sorti de cette espèce de dualité entre les centres-villes et les banlieues. Vous savez, au fond, depuis des quelques années, ça a toujours été, comment dirais-je, ce qu'on appelle des élites sont très à l'aise, en réalité, avec le discours sur les banlieues. C'est ça qui est assez paradoxal. Il y a un jeu d'opposition comme ça, très caricatural, qui se joue. Par exemple, dans le monde universitaire, vous avez beaucoup de choses qui sont faites. Par exemple, je pense à Sciences Po, avec M. Richard Descoings, qui sont faites pour les gens de banlieue.
La discrimination positive.
Qui sont souvent, ce qui est souvent d'ailleurs dans le discours public, et c'est dommage, une espèce de, comment dirais-je, de terme codé pour parler de l'immigration en réalité. C'est un des problèmes de...
C'est-à-dire qu'on va offrir des quotas, notamment pour ces jeunes issus des lycées de banlieue, pour qu'ils aient les mêmes droits à intégrer les grandes
et
écoles.
Et peu à peu, on a eu l'impression que toute une France moyenne en fait est en train de disparaître. Alors depuis, c'est vrai que depuis 12 semaines, c'est un peu le phénomène contraire. Et là, on a cette France périphérique, cette France moyenne qui a repris la parole. Et du coup, on parlait moins de banlieue. Ben maintenant, effectivement, on en parle. Et on en parle avec, on va en discuter je pense pendant toute l'heure là, mais avec cette difficulté qui est à mélanger une dimension territoriale, la banlieue selon où on habite, avec une dimension sociale qui est quand même essentielle.
On en parle et c'est tant mieux. Philippe Rio, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous qui êtes avec nous en ligne et qui avez offert, on va en reparler, un livre intitulé « Les abandonnés » à Emmanuel Macron. Vous avez vu brandir ce livre, on va en parler de ce contenu. C'est tant mieux que ces banlieues reviennent ou vous avez le sentiment qu'on est quand même un peu dans l'opération communication et que, bon, il doit bien, aujourd'hui, Emmanuel Macron, évoquer les différentes facettes qui composent la France et la politique territoriale, en l'occurrence.
Nous sommes tous lucides de l'opération de communication. Nous sommes heureux quand même que le débat se réouvre.
Bien
après
sûr,
la douche froide du 22 mai, c'est le sens de mon intervention au président de la République.
Bien sûr, Philippe Rio, on va se retrouver dans un instant, pardon, je vous attendais. Alors, sachez que vous avez le temps, hein, chers amis, on est ensemble jusqu'à 10h, mais c'est pas grave.
Vous m'attendiez
faire une petite
sur
pause.
Quoi
Non, mais il n'y a pas de problème, on va faire une petite pause et puis on va revenir notamment sur le discours que vous avez opposé au président de la République en compagnie de Catherine Arnoux, qui est maire de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, avec des représentants d'associations également qui seront là pour témoigner de leur quotidien, alors que les emplois aidés, vous le savez, ont été largement rabotés et c'était pour le principe, un carburant, en l'occurrence pour les associations. A tout de suite sur Europe 1 avec vos appels au 3921.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous commentons jusqu'à 10h l'adresse aux banlieues d'Emmanuel Macron lundi soir dans l'Essonne.
C'était dans l'Essonne, à Ivry-Courcouronnes, évidemment. Ivry, une ville qui n'a pas été choisie par hasard. Ancienne ville du Premier ministre Manuel Valls, qui avait déjà parlé justement de la déchirure territoriale, de l'abandon par le gouvernement, par les élites de ces zones, de banlieues, de ces quartiers. Jérôme Sainte-Marie est avec nous, Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, et Philippe Rio, maire de Grigny dans l'Essonne. Vous qui avez interpellé le président de la République pendant sa soirée marathon, avec peut-être d'un côté, en effet, vous le disiez, l'opération communication, vous n'êtes pas dupe, mais avec le sentiment quand même qu'il veut rôtisser quelque chose. Et notamment, il a fait son mea culpa sur les contrats aidés qui aident pourtant au quotidien les associations. Alors, vous allez me dire, ça fait une belle jambe aux associations, mais bon, c'était déjà une réflexion, une analyse qu'il vous a livrée, le président de la République, Philippe Rio.
Oui, que de temps perdu. Pendant 2 ans, on a fragilisé les plus précaires. Les acteurs, qui sont d'une utilité sociale incroyable, ont été les plus fragilisés depuis 2 ans. Il y avait unanimité politique, consensus national pour aider ces associations qui font un travail remarquable. Avec des bénévoles, avec des investissements, encore une fois, qui tiennent notre République debout dans ces quartiers. Et donc, que de temps perdu, vite un grand plan pour les petites associations. Il y a des choses pratiques qui ne coûtent pas cher. Et puis, trouvons un autre nom, si l'on veut, des contrats d'utilité sociale, des emplois aidants, parce que c'est ça le sens. Nous devons vite redonner les moyens, redonner du souffle à nos territoires.
Vous dites vite, Philippe Rio.
J'amène une précision.
Oui.
Cela ne vaut pas que pour les banlieues.
Bien sûr.
Les territoires ruraux très éloignés, délaissés, ont souffert énormément de la suppression des emplois aidés. Et donc, il y a une convergence à obtenir très rapidement entre les territoires ruraux et les territoires urbains.
Quand vous dites vite un grand plan que vous appelez de vos voeux, c'est que vous avez soufflé l'idée pour les associations au président ou ça faisait partie vraiment des doléances et des mesures qui étaient présentes dans le plan Borloo?
C'était au cœur du plan Borloo, mais c'est du bon sens populaire. De ne pas lâcher, encore une fois, les plus précaires et les plus fragiles dans le monde des agissants.
Pourquoi vous réagissez, Jérôme Sainte-Marie, dites de donner de l'argent aux associations, retisser avec ses emplois aidés ou ses...
Non, je réagissais à l'expression bon sens populaire, parce que ce qui apparaît depuis justement quelques semaines, c'est aussi une forme d'exaspération d'une bonne partie des catégories populaires qui ont l'impression de payer. Justement, parce que ces contrats aidés, ils sont bien aidés par quelqu'un, ils sont aidés via, du coup, le produit fiscal. Et toute la révolte fiscale que l'on connaît actuellement, je ne dis pas que c'est la vérité, en tout cas, je dis simplement que c'est ce qui est ressenti par une bonne partie de l'opinion, c'est le fait que il y a toute une catégorie de Français qui payent beaucoup pour des aides sociales qui ne leur profitent pas et qui vont en quelque sorte que le système n'est pas clos sur lui-même mais qu'il y a une fuite et voilà. Donc c'est, il y a aussi une forme d'opposition, il ne faut pas être dupe entre les populations, voire entre les territoires.
Oui, Catherine Arnoux là-dessus.
Oui, alors, il ne faut pas oublier, excusez-moi Philippe Rio, mais il ne faut pas oublier quand même que derrière des contrats aidés, il y a des gens. Il y a des gens qui sont en situation d'insertion. Qu'est-ce que c'est la situation d'insertion? C'est souvent le retour à l'emploi après de longs temps de chômage ou l'absence de formation. Et puis, c'est la première marche pour un emploi pérenne. Et l'insertion, ben c'est un temps dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont ce temps dans la vie un peu obligatoire. Ces contrats aidés, certes, ils sont aidés par la collectivité, c'est-à-dire qu'ils étaient aidés par l'État, on est bien d'accord. Mais ils permettaient, en plus d'avoir une utilité sociale, parce que dans les petites associations, ils ont une utilité sociale. Le bénévolat et le salariat à temps plein en CDI n'est pas possible sur ces toutes petites associations.
Même c'était pour les voix médiane intéressante. Et on est passé de 300 000 à 130 000
en accompagnant ces habitants. Non seulement ils reprenaient pour eux-mêmes et pour la collectivité une utilité sociale, mais ils faisaient le premier pas. Donc ces emplois-là, de toute façon, ils continueront à exister sous une forme ou sous une autre. Ils seront obligés de continuer à exister. Sinon, c'est un certain nombre d'habitants qui repassent directement dans le RSA, qui est quand même une forme de contribution aussi de la collectivité.
Alors, vous en aviez besoin de ces contrats aidés parce que vous ne pouvez plus abonder les associations en subventions comme vous le faisiez précédemment, Catherine Arnoux et Philippe Rio aussi.
Les collectivités de nos territoires sont pauvres, ont des habitants pauvres et sont des collectivités extrêmement pauvres. Philippe pourra vous en parler parce qu'il est dans une des villes les plus pauvres.
Grigny, oui, absolument, dans l'Essonne.
Oui. Les collectivités locales, depuis 10 ans, sont touchées de plein fouet par l'austérité. Et permettez-moi de revenir sur le débat sur les associations et l'impôt. Évaluons les contrats aidés dans ce pays. Un contrat aidé au titre du CICE, c'est 200 à 300 000 euros l'emploi créé. Ce dont on parle, c'est 20 000 euros par emploi créé.
Oui.
Alors moi, je veux bien qu'on pointe du doigt les contrats aidés dans nos quartiers ou dans nos territoires ruraux. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de mesurer de quoi on parle. Et donc je dis que pour 100 fois moins cher, on a une utilité sociale 100 fois supérieure dans nos quartiers, dans nos clubs sportifs. Les témoignages d'acteurs associatifs à Évry-Courcouronnes étaient terribles sur cela. Des gens ont montré l'utilité. Un club de foot a perdu 4 éducateurs sportifs. Et les collectivités ne peuvent pas les payer. C'est de ça dont on parle. Et c'est pas uniquement dans les banlieues, c'est dans les villes moyennes. C'est partout en France. Et donc, mesurons, évaluons, soyons honnêtes. Et ne piquons pas le débat, s'il vous plaît, sur ce sujet-là.
Alors, je vous encourage à nous appeler à témoigner au 3921 si vous êtes membre d'association, salarié ou bénévole et que vous voulez aussi réagir sur ce plan, ce grand plan pour les petites associations, cet appel lancé aussi par les élus face à Emmanuel Macron lundi soir. Est-ce qu'on peut parler d'urgence commune en banlieue? Parce que votre situation à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, n'est pas celle de Grigny, qui est en effet l'une des communes les plus pauvres de France, placée sous contrôle budgétaire en 2003. Mais il y a quand même des points communs d'action, Catherine Arnoux.
Il y a déjà des points communs de pauvreté. Chanteloup-les-Vignes, même dans les Yvelines, territoire dit riche est la 45e ville la plus pauvre de France, oui, de plus de 10 000 habitants. Donc on a déjà les mêmes problématiques, c'est-à-dire une volonté localement de faire de la solidarité, mais des moyens quasiment inexistants. Moi, j'ai par exemple sur mon territoire, je porte le fait associatif parce que je pense que c'est une vraiment le premier niveau de la démocratie, c'est le premier niveau du bénévolat sur nos territoires. Je n'ai pas diminué depuis 10 ans les subventions aux associations, oui, mais ça ne suffit pas.
Et vous allez nous parler comme vice-présidente de l'association Ville et Banlieue, justement, on en note le sens dans l'intitulé même. Philippe Rioux reste avec nous. L'analyse de Jérôme Sainte-Marie à venir, politologue qui étudie aussi le geste politique d'Emmanuel Macron, son action en banlieue, une reconquête éventuellement. On fait le tour de la question et on vous donne la parole. Julie, on attend vos témoignages au standard.
Au 39-21 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Quelle est la vision d'Emmanuel Macron du rôle de l'État dans les banlieues, qui sont des territoires oubliés pour certains? Pourquoi a-t-il enterré le rapport Borloo, commandé à l'ancien ministre sur le sujet? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
Avec les témoignages d'élus de terrain, d'élus de ces banlieues, dans les Yvelines, Chanteloup-les-Vignes, représentés par la mairesse Catherine Arnoux, Grigny dans l'Essonne, avec le maire Philippe Rioux. Ahmed Imzil va réagir dans un instant. Il est président de l'AJAC, Atelier pour les jeunes et les adultes de la cité dans Maine-et-Loire, à Trélazé. Et Jérôme Sainte-Marie là pour nous éclairer aussi sur ce rapport des politiques aux banlieues. Vous avez commencé de le faire, mais pour Emmanuel Macron, aller en banlieue à ce moment-là du conflit, à ce moment-là du grand débat, c'était un passage obligé ou en tout cas symboliquement intéressant et intéressé.
Oui, de toute façon, le grand débat doit concerner l'ensemble du pays, l'ensemble des territoires, l'ensemble des catégories sociales. Donc, c'est bien normal qu'on parle également des banlieues. Par ailleurs, j'ai eu l'impression qu'Emmanuel Macron était plutôt à l'aise, en fait, dans cet environnement des banlieues, parce qu'il y a
plutôt bien accueilli, d'ailleurs.
Il y a toute une symbolique de la jeunesse, du dynamisme, qui d'ailleurs, d'où son expression un peu étrange là sur la comparaison entre la Seine-Saint-Denis et la Californie. Mais on voit bien qu'il y a cette espèce d'idéal très libéral, d'ailleurs. Sur cette boule d'énergie que serait la banlieue et la jeunesse, y compris celle issue de l'immigration. Donc là-dessus, il est très à l'aise. Mais en même temps, s'il n'y a pas énormément de, c'est pas un territoire pour lui privilégié électoralement. Les jeunes des banlieues n'ont pas voté Macron. Si je prends un exemple, je suis désolé, je vais pas parler de l'Essonne ou des Yvelines, mais je vais parler de la Seine-Saint-Denis. Oui. Si vous prenez les députés, les 12 députés élus en Seine-Saint-Denis, il y en a très peu élus en Marche. Vous avez inversement 5, je crois, élus de la France Insoumise, 2 élus communistes. Enfin bref, les jeunes des catégories populaires et donc du fait les jeunes de banlieue, qui votent d'ailleurs assez peu, c'est que la banlieue est aussi un des très grands territoires de l'abstention, eh bien ces jeunes, quand ils votent, votent assez peu pour Emmanuel Macron également. Et d'ailleurs, cette histoire des contrats aidés le prouve, parce que en banlieue, on a des populations pauvres, ça a été dit, donc des populations qui dépendent beaucoup des services publics, de l'aide publique, et qui ne sont pas spontanément demandeuses, me semble-t-il, d'une politique très libérale.
Oui. Or, vous avez besoin, comme le dit justement Jérôme Sainte-Marie, Philippe Rioux, notamment de relais associatifs pour la réflexion citoyenne, l'éducation civique, pour emmener un certain nombre de ces jeunes au vote, et en tout cas, l'intérêt pour la chose politique, à Grigny, par exemple.
Oui, absolument. L'une des raisons qui explique cette situation, c'est certainement un déclassement social qui est enquisté depuis 2 ou 3 générations dans nos territoires. C'est la raison pour laquelle, lors de mon interpellation, et je vais répondre à votre question du début, j'ai interpellé le président en disant que la France avait une dette vis-à-vis des quartiers populaires parce qu'il y a une rupture d'égalité républicaine dans nos villes populaires. Et notre République française ne peut pas se satisfaire de cela. Et donc, on doit faire toujours plus et mieux pour cette jeunesse, parce que nous avons le double de jeunes que sur les autres territoires. Mmh. C'est l'avenir de la France qui se joue ici. Et donc, on ne peut pas opposer libéralisme à tout craint d'un côté ou soutien à 100% de l'autre. Notre République a su inventer un équilibre Et c'est cet équilibre que l'on souhaite.
Et cet équilibre que vous avez pointé du doigt, je n'ai pas lu le livre que vous avez brandi et que vous avez offert à Emmanuel Macron, intitulé « Les abandonnés, histoire des cités de banlieue », qui démontre en quoi notre République a une dette vis-à-vis de ses quartiers populaires, de ses habitants. Et vous avez partagé ce constat, ce cri d'alarme, considérant Catherine Arnoux, et vous allez peut-être rejoindre Philippe Rio aujourd'hui, vous n'êtes pas communiste, vous êtes maire d'hiver droite, qu'on a laissé pourrir la situation et qu'on a laissé les élus en première ligne aussi.
Ah oui, ça fait plus de 30 ans hein, qu'on porte la solidarité nationale. Mmh. Quand un territoire comme le mien a commencé à 82% de logement social, alors que mes voisins les plus proches avaient respectivement 5 et 7%, ça veut bien dire que sur un territoire, on a fait porter la solidarité du logement social et de la pauvreté. Donc, est-ce qu'on est capable de l'assumer ? Oui, pas à ce niveau-là, parce que ça, c'est impossible la solidarité à ce niveau-là. Un territoire ne s'équilibre pas comme ça. Mais oui, on est capable de porter... Nous, les élus, oui, on est capable aussi d'inventer ou de soutenir l'invention de ces territoires. Mais à un moment donné, il faut que cette espèce de fardeau, enfin de difficulté, soit un peu équilibrée. Et c'est le propos qu'a porté Stéphane Baudet, qui est membre de Ville et Banlieue et qui recevait le président de la République. Il a commencé par poser la question qui est, est-ce qu'on veut continuer à avoir des ghettos sans mixité ou est-ce qu'on veut... Et à ce moment-là, la France décide, ça n'est pas mon choix, mais la France décide de donner les moyens parce que ça ne bougera pas. Mmh. Ou est-ce qu'on décide de penser la mixité sociale
vous
sur des territoires plus larges ?
Les uns et les autres, que ce débat, cette question a été soulevée de nouveau après les terribles attentats de 2015, parce qu'on recommençait à pointer du doigt justement la responsabilité aussi de ces ghettos sur le parcours d'individus. 4 ans après, voilà, rien n'a bougé.
Oui, parce qu'il y a, sont à l'œuvre des phénomènes. Là, du coup, je m'inspire du géographe Christophe Guilly, notamment, sont à l'œuvre des phénomènes qui sont des phénomènes qui n'ont rien à voir avec les préjugés ou ce que ferait ou ce que ne ferait pas la République. Ce premier phénomène est un phénomène économique. Ça s'appelle la spéculation immobilière. En tout cas, vous savez très bien le fait que la hausse vertigineuse des coûts du logement dans les villes-centres, ce qui n'est pas que la banlieue parisienne, il y a toutes les banlieues qui sont concernées, eh bien, les villes-centres produisent justement un exode des populations. C'est-à-dire que la population parisienne, par exemple, diminue. Oui. Et vous avez effectivement des gens qui sont chassés par cela. Donc une concentration, la mixité sociale, elle est défaite, mais elle est défaite par le haut, très généralement. Et puis il y a aussi un autre phénomène. Et là-dessus, effectivement, en réveillant cette question des banlieues lors du grand débat national, on va également réveiller d'autres clivages, puisque derrière, il y a un phénomène aussi qui est le phénomène de l'immigration. J'ai lu un rapport hier, pour venir vous voir, un rapport qui a été rédigé en mai par deux députés, un député LR, François Cornu-Gentil, et un député En Marche. Mmh. Ce rapport est très intéressant. Ça est consacré uniquement au département de la Seine-Saint-Denis, où les phénomènes liés de banlieue sont un peu paroxystiques. Eh bien, là, vous avez des phénomènes incroyables. Par exemple, il y a grosso modo 1 600 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Mmh. Aujourd'hui, nous dit ce rapport parlementaire officiel, l'État n'est pas en mesure de savoir quel est le nombre d'habitants en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, à 200 ou 300 000 habitants près, quelle est la population de la Seine-Saint-Denis. C'est le rapport parlementaire du 31 mai 2018 que je vous cite. Et tout simplement parce que vous avez, donc, on est entre 150 000 d'après les auteurs et 400 000 clandestins en Seine-Saint-Denis, ce qui peut représenter jusqu'à donc un cinquième ou un quart de la population. Ouais. À partir de là, vous avez des phénomènes d'économie parallèle, etc., des zones de non-droit qui se développent. Donc ce phénomène d'immigration est très important et la pauvreté que l'on observe dans certaines zones est aussi, si j'ose dire, une pauvreté importée.
Or, une pauvreté pour la plupart dans ces territoires invisibles ou oubliés. Je vais redonner la parole juste après la pause. Catherine Arnoux, petite publicité. Philippe Rio, maire PCF de Grigny, va réagir et je donne la parole aussi au président des ateliers pour les jeunes et les adultes de la cité. Il travaille en Maine-et-Loire à Trélazé. Ahmed vient témoigner au 3921. A tout de suite.
Le tour de la question sur les annonces d'Emmanuel Macron lundi au cours du grand débat à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne.
Et je voudrais que notre invitée, l'une de nos invitées, maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, maire d'hiver droite Catherine Arnoux, réagisse au propos à l'instant de Jérôme Sainte-Marie qui a étudié ce rapport parlementaire remis il y a un an et demi maintenant et qui évalue la sous-estimation d'une grande partie de la population. Ils ont pris le territoire de la Seine-Saint-Denis avec peut-être entre 150 000 et 400 000 personnes.
Voilà, dans ce rapport du 31 mai 2018, c'est ce qui est indiqué. tout cas. Voilà. Et c'est un rapport officiel, encore une fois, fait par deux parlementaires.
Qui seraient des personnes non recensées, clandestines. Alors, il y a plusieurs sortes de clandestins, Catherine Arnoux, mais même dans une petite commune comme Chanteloup-les-Vignes, 10 000 habitants, vous connaissez ce phénomène ?
Mais en Île-de-France, il y a tellement de besoins de logements sociaux et tellement peu de logements sociaux qu'en dehors de la clandestinité, il y a simplement l'hébergement, c'est la solidarité locale. Mmh. Et on arrive très vite à ce qu'on appelle, nous, une politique de peuplement. Pourquoi les gens hébergent leurs familles, tout ça, qui ne sont sans emploi et qui ne trouvent pas de logement ? Eh bien, parce qu'ils sont solidaires, mais parce qu'ils ont eux-mêmes trouvé un logement social. Et la politique de peuplement dont on parle régulièrement, qui n'est pas un gros mot, c'est ce qu'on décrit très souvent, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu le grand plan de rénovation urbaine, depuis qu'on a refait quand même la ville sur la ville, où on a essayé de redonner sur nos territoires à la fois une qualité de vie, des logements sociaux de plus belle qualité, on reste quand même sur des territoires où le logement, où dès que quelqu'un va bien, parce qu'on est quand même ascenseur social, on n'a qu'à regarder des études qui sont faites dans le long cours, on est vraiment des territoires d'ascenseur social. Quand on s'en sort, on fait un vrai parcours résidentiel sur notre territoire, on demande souvent à ne pas aller très loin, et donc on laisse la place à des plus pauvres dans le logement social. La majorité des contingents sont ce qu'on appelle le contingent préfecture, c'est-à-dire l'État qui a sa politique logement et qui remet des plus pauvres. Et ces plus pauvres-là hébergent souvent des amis ou de la famille qui est aussi pauvre qu'eux. Et donc on est dans ce phénomène, effectivement, pas seulement de sous-estimation, d'un problème de politique de peuplement qui est un peu le tonneau des Danaïdes. On a l'impression de toujours recommencer avec des familles nouvelles qui sont toujours de plus en plus précaires.
Est-ce que vous avez des subventions ? Est-ce que vous avez des aides pour ça ?
Mais bien sûr que non. D'abord parce qu'en fait, c'est tellement évolutif que les chiffres qui nous sont donnés, là on a refait une étude, parce qu'on en fait régulièrement dans les contrats de ville, mon territoire lui-même, la ville elle-même, avec son évolution et son parcours résidentiel, avec l'apport d'une nouvelle population, 2000 habitants sur 10 000 qui est dans l'accession à la propriété, la ville elle-même, le revenu moyen a plutôt augmenté en 10 ans.
Oui.
Et dans ce quartier-là, le revenu moyen a énormément baissé. Donc il y a eu une vraie politique de précarisation et de paupérisation qui est liée à des nouveaux habitants qui arrivent, parce qu'il y a très peu de logements sociaux et qui n'ont pas beaucoup le choix, qui arrivent dans le cadre du contingent préfecture et qui sont à reprendre et qui sont à réaccompagner comme on avait accompagné les générations d'avant.
C'est-à-dire que parfois vous avez du mal avec tout ce que vous mettez en œuvre à lutter contre ce qu'on appelle des ghettos. Parce que là,
mais
on est
sûr,
dedans.
Puisqu'on le reproduit en permanence.
Ouais.
Et que nous, on reprend le problème pratiquement à la petite enfance. Hein. C'est aussi pour ça qu'on est obligé de faire du long terme. Et on reprend l'accompagnement des jeunes enfants, l'accompagnement des jeunes parents. Et on reprend à zéro à chaque fois.
Ahmed et Imsil, avant de donner la parole à Jérôme Sainte-Marie et à Philippe Rio sur ce phénomène de ghetto. Bonjour, Ahmed.
Wendy, Bouchard, bonjour Julie.
Merci. Dites-nous, merci de témoigner. Je précise simplement l'association que vous représentez, qui sont les ateliers pour les jeunes et les adultes de la cité. Vous êtes en Maine-et-Loire à Trélazé.
Oui, tout à fait. Et ex-leader du réseau Droit de Cité, qui a été à l'initiative avec Sciences Po et Pierre Lescure, à l'époque, que vous avez évoqué tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai pu aussi visiter et m'introduire dans énormément de territoires, de Quartier Nord à Marseille, Mireille à Toulouse, L'Axou à Nancy, banlieue parisienne,
d'accord,
La Rochelle.
Oui.
Et je suis resté toujours connecté de 92 à aujourd'hui. Et au fait, les visages de ces quartiers ont beaucoup changé, mais profondément. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire et je vous remercie de me donner la parole parce que comme jadis, j'avais rencontré le sous-commandant Marcos avec entre autres les journalistes de Charlie Hebdo, mort à cause des terroristes il y a 4 ans exactement. Et le commandant Marcos parlait des sans voix et des sans visages. Je vous remercie de me donner la parole. Donc là, en fait, le plan Borloo, pour moi, c'est un plan imparfait déjà.
De toute façon, il a été enterré, le plan Borloo.
C'est un plan imparfait. C'est un plan imparfait.
Parlons plutôt de l'avenir, Ahmed, si vous voulez bien.
Oui, tout à fait. Mais il a été écrit par des gens qui ne vivent pas dans les quartiers, qui n'ont pas grandi, ou qui l'ont quitté il y a très longtemps. Et donc, tout d'abord. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, il y a des questions qui sont rarement abordées. Y compris dans le plan Borloo, c'est pour ça qu'il est imparfait, des questions un petit peu taboues, en fait, des questions qui transforment le modèle républicain dans nos quartiers, le vivre ensemble, et aujourd'hui, il y a une montée du communautarisme intolérant et intrusif dans nos quartiers aujourd'hui. Ça, c'est la vérité. Je comprends que les maires ou d'autres acteurs n'osent pas redoute aborder ce sujet, oui, car oui. ils ont beaucoup de courage. Mm-hmm. C'est des élus de proximité. Les enjeux sont très importants dans les quartiers aujourd'hui. Dans un quartier, la question des banlieues, on ne doit pas voir ça en tant qu'homme politique, mais en tant qu'homme ou femme d'État. Parce que là, demain, là, notre pays aujourd'hui, il est en train de changer de modèle. Alors, nos banlieues sont en train de changer de modèle.
Ah, mais si vous voulez bien, je vais vous interrompre parce qu'on va faire une petite pause. On va faire réagir nos invités sur ce que vous venez de pointer du doigt, c'est-à-dire les sujets un peu plus tabous, en l'occurrence la religion, parlons-en. Et puis surtout, vous allez nous dire ce que vous faites, vous, au quotidien avec votre association. C'est ce qui nous intéresse également. On se retrouve dans un instant. Julie, n'hésitez pas à témoigner comme Ahmed. Si vous êtes membre d'association, bénévole, salarié, dites-nous ce que vous faites pour vos quartiers.
39-21. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Un grand plan pour les petites associations et un plan anti-ghetto. Y croyez-vous et qu'est-ce que ça veut dire, Wendy Bouchard?
Et nous, on souhaite du concret plutôt que des grands discours. Alors n'hésitez pas justement à nous dire vraiment ce que vous faites au quotidien. J'aimerais qu'on en parle vraiment précisément. Catherine Arnoux avec des exemples précis. Philippe Rioux également, maire de Grigny dans l'Essonne. Ahmed qui préside l'AJAC, atelier pour les jeunes et les adultes de la cité à Trélazé dans Maine-et-Loire. On attend de savoir ce que vous faites vous au quotidien pour ces hommes et pour ces femmes. Juste, Ahmed évoquait un de ces tabous communautaires, la religion, qui déchire, qui crée aussi des apartheid dans ces quartiers-là, et pointer du doigt le fait que ce rapport Borloo était vicié, ou en tout cas morné, parce que les élus ne connaissaient pas la banlieue, n'y étaient pas nés, etc. Ça, c'est un discours qui vous énerve, Catherine Arnoux, parce que je pense que vous la connaissez, votre commune, surtout les villes.
Oui, parce que ce discours-là ne veut rien dire. Quand on est maire, on est censé s'intéresser. On n'est pas né dans tous les quartiers de sa ville, ça c'est le principe, on ne peut pas naître partout. Mmh. Mais l'idée, c'est de comprendre tout le monde, d'écouter tout le monde, d'être une éponge qui retient les doléances et les façons de vivre des habitants, voilà, pour leur proposer quelque chose. Oui. Moi, je ne suis pas née dans un quartier prioritaire. Pas du tout, et peu s'en faut. Et c'est devenu ma priorité quand même. Mmh. Voilà. Et je trouve qu'on a un rôle à jouer sur l'ensemble de ces quartiers, mais on n'a pas besoin d'être issu et d'avoir souffert. J'ai été médecin. Je n'ai pas eu besoin de souffrir à la place de mes patients, j'ai eu besoin de souffrir avec. C'est ça l'empathie. Oui. Et donc Philippe on n'a absolument pas besoin. Et moi je dénonce en permanence ce propos qui est de dire vous ne connaissez pas parce que vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas nous aider, c'est faux. Oui. D'ailleurs quand on fait une politique dans les banlieues, on sait très bien, on fait jamais une politique pour, on fait une politique avec.
Ça c'était pour vous, Ahmed. Vous allez réagir, Philippe. Oui, vous non, êtes d'accord, Philippe.
Oui. Rioux. Moi je veux réagir. On va pas continuer à diviser les uns les autres.
Ah ben non, mais c'est pas moi qui le fais, hein, là, c'est en l'occurrence...
Oui, absolument. Voilà,
un discours
plus,
qui est porté aussi par...
On se connaît avec votre interlocuteur.
Qui nous écoute.
Moi, par exemple, j'ai vécu toute ma vie dans un quartier prioritaire. Mmh. J'ai fait toute ma scolarité dans une école de prioritaire. Ce que je veux dire, c'est que ce rapport Borloo, évidemment, il avait des angles morts, mais il faisait l'objet d'un consensus national. Il y avait tout l'arc républicain, tous ceux qui agissaient sur le terrain, et c'était une base... Mmh. formidable, qui permettait de traduire d'autres choses.
Alors ne parlez pas au passé, parce que ce travail, j'espère que vous ne l'avez pas fait pour rien, vous êtes réunis pendant 8 mois, au contraire,
non.
C'est une base de départ.
Une chose, une solution, suite notamment au rapport parlementaire qui a été décrit, et très bonne lecture, lisez ce rapport parlementaire.
Merci pour Jérôme Sainte-Marie, ce rapport parlementaire de mai 2017, oui.
Absolument, dans ma ville, il y a 10% d'habitants en plus qui ne sont pas comptabilisés par l'INSEE.
Oui.
J'ai plus d'enfants dans mes écoles que d'enfants recensés par l'INSEE. Et donc, je perds d'argent parce que nous avons une surcharge scolaire objective. C'est un sujet que le président de la République doit apporter des réponses rapides. Mm-hmm. L'autre sujet, sur la Seine-Saint-Denis, il y a moins d'écoles, moins de police et moins de justice. Rendez-vous compte, au tribunal d'instance d'Aubervilliers, sur la question du divorce, vous mettez 6 mois de plus à divorcer que de l'autre côté du périph' dans le 18e arrondissement. Je prends cet exemple à dessein parce qu'il y en a plein, et notamment un autre scandale. Ce sont les fonctionnaires les moins expérimentés, les plus jeunes, qu'on envoie au charbon dans les territoires les plus difficiles, pour lesquels quand même les fonctionnaires et les hussards de la République font des choses remarquables tous les jours.
Vous parlez des professeurs et pas que des professeurs,
et donc,
mais vous avez tout à fait raison.
La Cour d'équité territoriale, qui est un des programmes d'action que nous avons travaillé avec plusieurs personnes inscrites dans le rapport Borloo, et pour moi, Et le président de la République en était d'accord puisqu'il a décidé de réouvrir ce champ-là. Est oui. un élément extrêmement déterminant pour savoir ce qui se passe dans nos territoires de banlieue, mais encore une fois dans nos territoires aussi d'outre-mer, de bassins de réconversion et de territoires ruraux
Philippe
délaissés.
Philippe Priot, très, très intéressant tous les exemples que vous mettez sur la table. Je voudrais faire réagir sur cette iniquité de territoire, Jérôme Sainte-Marie, notamment sur les moyens. Ce qu'évoquait Philippe Priot est très parlant à l'instant.
Oui, je voudrais intervenir sur deux aspects. Alors, il y a effectivement ce problème de moyens, et toujours dans ce rapport, mais qui est très concret, c'est pour ça que je le cite abondamment, on voit bien qu'effectivement, l'argent qui est la dotation pour les établissements scolaires en Seine-Saint-Denis est bien moindre que la dotation pour les établissements parisiens, qui pourtant ont affaire à moins de difficultés, a priori, par rapport aux jeunes qui doivent encadrer. Mais après, pour tout le reste, il faut être très prudent quand même sur cette notion de ghetto ou cette notion, même Manuel Valls avait parlé d'apartheid. Parce que quand on dit ghetto ou apartheid, on a l'impression qu'il y a des gens très méchants, nourris de préjugés affreux, qui veulent le mal d'une autre population. C'est pas comme ça que les choses se passent. Les préjugés racistes, etc. sont en déclin constant dans ce pays, contrairement à ce que l'on dit. Et par ailleurs, l'État essaye de faire pas mal de choses. Le problème, c'est qu'il y a des phénomènes, encore une fois, mécaniques, impersonnels, qui se produisent. Je vous ai parlé de l'évolution du marché immobilier, le phénomène de l'immigration également. Et puis si, par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a 3 fois plus d'enseignants débutants qu'en France en moyenne. 3 fois plus. Mmh. Et un enseignant débutant, par définition, ben, il est moins capable, peut-être, il est plus jeune, plus fragile, etc. C'est parce que c'est les enseignants eux-mêmes qui évitent les territoires. Donc c'est des stratégies individuelles d'évitement. Vous avez un autre problème très important et qui produit ce qu'on appelle la ghettoisation. Pas par du fait de la méchanceté des gens, mais par les stratégies individuelles, confrontées à des difficultés concrètes. Vous avez effectivement, là, beaucoup de rapports le disent, un problème de niveau scolaire qui se produit, d'une part parce qu'il y a une inégalité sociale et puis des différences d'origine également entre les territoires, et puis aussi parce que dans ces départements de banlieue, je pense à la région parisienne, vous avez une progression très importante de l'enseignement privé, puisque dans le même territoire, vous avez en plus une séparation très nette entre ceux qui peuvent mettre leurs enfants dans l'enseignement, l'école privée ou l'école libre, hein, comme on veut, et l'école publique.
Oui.
Ce qui fait que l'école publique se trouve, si vous voulez, dans une situation de difficultés énormes. Elle doit gérer des populations qui n'ont pas toujours chez eux une bonne pratique du français, par exemple. Et en plus, il y a un écrémage territorial. Et enfin, au sein du même territorial, il y a un écrémage, si j'ose dire, entre l'école privée et l'école publique. La difficulté pour l'éducation nationale est énorme. Or, le niveau des écoles est un choix essentiel dans le lieu d'habitation pour les parents. Donc vous voyez que c'est bien des spirales impersonnelles qui produisent ces phénomènes-là et non pas la méchanceté des gens.
Oui, mais pour revenir sur ce que disait Ahmed, et je vais vous faire réagir dans un instant, Catherine Arnoux, sur la communautarisation aussi dans ces quartiers, la religion, etc. Vous dites aussi que c'est un phénomène de conséquence de toute cette réalité. Vous allez témoigner. Ahmed également, je remercie Philippe Priot qui était avec nous en ligne depuis 9h ce matin, maire de Grigny, dans l'Essonne, qui a offert à Emmanuel Macron lundi soir ce livre intitulé « Les abandonnés » lors du grand débat organisé avec les maires à Évry. On se retrouve, chère Julie, Ahmed, pour témoigner encore au 3921.
Pour les petites associations, c'était une partie de son discours lundi soir.
Encore quelques minutes ensemble avec la maire de Chanteloup-les-Vignes depuis 10 ans, c'est ça, Catherine Arnoux ? 10 ans demain après-demain, bon anniversaire, bravo, dans les Yvelines. Vice-présidente de l'association Ville et Banlieue, Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de l'Institut de conseil et d'études Pollingvox, est avec nous pour analyser aussi cette politique d'Emmanuel Macron à destination des élus de banlieue et pas seulement évidemment de banlieue parisienne. Et Ahmed Imzil est toujours au téléphone pour témoigner, président des ateliers pour les jeunes et les adultes de la cité à Trélazé, en Maine-et-Loire. Alors Ahmed, vous avez fait un petit préambule en revenant sur les différents échanges que nous nourrissons depuis 9h ce matin. Mais moi, j'aimerais savoir ce que vous faites avec les jeunes, et pas qu'avec les jeunes, au quotidien, à Trélazé.
Oui. Alors, l'association, elle est repartie, elle a redémarré, disons, en 2016, printemps 2016, d'un constat. C'est que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, près de la moitié de la population a moins de 25 ans dans le banlieue, c'est une population très jeune.
Oui.
Et aussi, on a remarqué aussi que les femmes et les jeunes femmes avaient de moins en moins droit de cité dans nos quartiers. et très peu d'espace pour s'exprimer, et très peu d'espace à elle, entre autres. Mm-hmm. Donc, nous, on a mis deux priorités, la jeunesse, les femmes, mais aussi la réussite éducative. Et donc, dans les quartiers, en général, c'est une moyenne à peu près, dans les familles modestes, une personne sur trois obtient le bac. Et nous, on a fait une opération grâce à la politique de la ville, qui s'appelle coaching préparation aux examens, et on a obtenu 90% de réussite aux examens, ah, notamment au bac.
Oui.
Formidable. Et c'est une centaine de jeunes depuis 2016. Et aussi, on s'est rendu compte aussi, avec les moyens dont on dispose, que les collégiens de troisième allaient dans des filières après, qui n'étaient pas forcément, où il n'y avait pas forcément de débouchés. Mm-hmm. Donc on s'est dit, on va concentrer nos moyens sur les collégiens de troisième. On a fait un partenariat avec une grande école de commerce qui s'appelle l'ESCA, à Angers.
Oui.
Et l'ESCA a mis un tutorat et accompagne les collégiens de troisième du 1 pour 1, toute année scolaire, avec quelque part, avec une plateforme dédiée, c'est avec des très bons résultats. Aujourd'hui, ces collégiens passent la passerelle au lycée mieux formés, j'allais dire, et mieux préparés au lycée. Ensuite, pour l'implication des femmes, là aussi, on leur a donné un espace. Elles ont un espace où elles peuvent juste se rencontrer, mais aussi s'exprimer, faire des projets, des actions. Aussi, l'association accompagne en droit, on recourt en droit. Mmh. Et aussi, un grand problème qu'on n'a pas évoqué, c'est sur la fracture numérique.
Alors, et si vous voulez bien, on en parlera lors d'une autre émission, mais vous avez dit beaucoup de choses passionnantes, Ahmed, et notamment sur ce que vous faites en termes de réussite éducative, orientation, coaching, accompagnement. Ça, c'est formidable. Les exemples sont forts et parlants. Catherine Arnoux, ce que fait cette association Atelier pour les jeunes et les adultes de la cité en Maine-et-Loire?
Oui,
c'est vraiment au cœur de ce que vous faites.
Bravo
aussi,
vous d'ailleurs, mais on fait tous les mêmes constats. Hein. La réussite éducative qui est ailleurs le fait de l'éducation nationale dans nos quartiers, a besoin à la fois de l'apport d'autres moyens, de l'apport du monde associatif, de l'apport des structures municipales aussi, hein, pour faire un peu plus dans le cadre éducatif. Donc, je comprends très bien ce qu'il a fait, parce que nous aussi, on a par exemple l'ESSEC qui est très, très proche de chez nous, et grâce au mouvement Bebe en Zèbre, on a monté l'accompagnement des troisièmes, l'accompagnement vers une orientation choisie et non une orientation par défaut, ce qui est le fait de nos jeunes de 12, 13, 14 ans, bien souvent, simplement parce qu'ils manquent à la fois d'expérience dans leur famille ou de regard dans leur famille. Et donc, on a monté cette année les équipements, enfin le système stage de troisième, qui fait que les SEC et Bleu Blanc Zeb sont venus nous proposer des stages, mais pas en disant voilà, il y a un stock, choisissez. C'est quoi vos compétences,
c'est
vous jeunes, parce
hein,
que vous êtes capable de le dire, c'est quoi votre envie et comment
Catherine
on peut vous accompagner. Et comment on accompagne aussi les jeunes bacheliers ? Parce que ce que j'ai entendu là, c'est effectivement sur nos territoires, quand ils sont accompagnés, les groupes qui sont demandeurs, ils sont très demandeurs, c'est 90 à 100% de réussite au bac, ce qui n'était absolument pas déterminé au départ.
Juste un tout petit mot, parce que vous parliez du mouvement Bleu-Blanc-Zèbre, il faut rappeler à nos auditeurs ce qu'il est et quel maillage justement il a permis ce mouvement.
Alors ce mouvement Bleu-Blanc-Zèbre qui est Alexandre Jardin, et qui a beaucoup travaillé avec nous, qui a beaucoup accompagné et fait beaucoup sur ces territoires gagnants.
Parce que
Nous avons pendant un an travaillé avec ces associations. C'est un regroupement d'associations et j'y ai rencontré des associatifs mais passionnés et qui avaient comme seul regard la réussite surtout des enfants et des jeunes.
Donc il a eu en face de lui lundi soir, pour boucler la boucle, Emmanuel Macron, beaucoup de boules d'énergie, pour reprendre une expression Jérôme Sainte-Marie. Voilà, ce qui se passe en banlieue est à la fois dur mais porteur d'immenses espoirs, Ahmed vient de le dire.
Oui, tout simplement d'ailleurs, parce que c'est là où il y a une croissance démographique importante. Ouais. La population de ces quartiers est plus jeune que la moyenne.
Vive.
Et de fait, c'est l'avenir du pays. Donc, c'est pour ça que c'est un enjeu qui n'est pas du tout un enjeu compassionnel. C'est un enjeu absolument stratégique pour la France. C'est quand même des zones qui ont des avantages. Hein. Faut pas non plus donc cette vitalité démographique, mais également la proximité avec là où se crée la richesse. La Seine-Saint-Denis, dont on a tellement parlé, c'est aussi c'est également un endroit où il y a énormément de sièges de grandes sociétés nationales. Il y a des aéroports. Donc, c'est des territoires qui sont aussi en prise avec la mondialisation et qui peuvent en profiter.
Merci Jérôme Sainte-Marie, président de l'Institut de conseil d'études Pollingvox, lecture croisée très claire. Je précise que le président Macron ira demain en Saône-et-Loire à la rencontre des jeunes. Voilà, autres grands absents du débat qui reviennent aussi sous la lumière. Merci Catherine Arnoux. Je vous laisse retourner à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, votre commune. Vous qui vice-présidez l'association Ville et Banlieue. Merci à Ahmed pour l'association Ajac. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes avec un grand monsieur, médecin, lui aussi biologiste pour le coup, Jean-Louis Etienne, plus grand explorateur des pôles que la France ait connu. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.